ToraBox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un enseignement de
Madame Vanessa Benzaken.
Bonne écoute et bon limoud.
Le Rav va lever maintenant un point qui est aussi une erreur assez fréquente, qui est de lier encouragement et orgueil. Certains y disent Aval. Si je complimente, si j'anime Shabbat, si je louange l'enfant, si je l'homme fater gava, oui, gavtan, oui, ça va le rendre orgueilleux, l'enfant. Vous entendez ce genre d'argument parfois, oui. Et la gava, c'est très catastrophique. Ça veut dire, Hachem, il dit, moi et le gavtan, on ne peut pas vivre dans le même monde. Enfin, c'est quelque chose de très, très, très catastrophique. Je ne veux pas m'approcher de là-bas. Le Rav, il dit comme ça. Il dit, non seulement l'encouragement n'a aucun rapport avec l'orgueil, mais il dit un encouragement bien mené ne favorise pas l'orgueil, et là il peut prévenir de l'orgueil. Alors comment je vais sortir de cette pirouette? Je vais essayer de les rattacher. Pourquoi? Il dit parce qu'il faut partir de l'axiome de base que l'orgueil ne se développe que sur le terrain de la comparaison avec autrui, avec un autre. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? C'est ani yoter mimeno. Ani yoter mimena, moi je sais mieux faire que lui, et moi je sais mieux faire que elle. C'est, l'orgueil, ce sera toujours nourri sur un terrain de comparaison à l'autre. Mais lorsqu'on encourage les enfants, justement, sans comparaison, pas sur les résultats, on les encourage eux avec eux-mêmes. Donc ils apprennent à développer de la satisfaction de eux vis-à-vis d'eux-mêmes. Il n'y a ici aucune comparaison, donc il n'y a pas d'orgueil. Et c'est pour ça, à la limite même, qu'un encouragement bien mené, comme on l'a expliqué jusqu'à maintenant, veut même prévenir de l'orgueil, parce que ça habitue l'enfant à avoir la satisfaction de ses accomplissements lui vis-à-vis de lui-même, sans comparaison avec qui que ce soit. Donc la comparaison, elle a deux problèmes. Elle est inepte dans son fondement, mais en plus, elle donne une tmouna, une image du relationnel qui est faussée déjà à la base. On ne peut pas se comparer, ni en plus, ni en moins. D'accord? Donc l'orgueil ici n'a pas de rapport avec ça. Il dit en plus, c'est indispensable de connaître et utiliser ses forces. Il dit, c'est le préambule indispensable de l'avodat Hashem. Quelqu'un qui ne connaît pas ses forces, qu'est-ce qu'il... Comment il va servir à Kadosh Baruch Hu s'il ne connaît pas ses forces? Oui, Rav Israël Salanter déjà, il dit ça. Oh, il a Adam qui ne connaît pas ses forces. Il doit aussi connaître ses lacunes, mais il doit connaître ses forces pour savoir comment réparer ses lacunes. D'accord? Donc c'est indispensable. On ne peut pas faire l'impasse sur ça. Arshav, le Rav, il essaye maintenant d'aider ce garçon, comment il va le sortir de là. Alors, il lui dit, bon, écoute, si tu n'arrives vraiment pas à apprendre par cœur, tu peux te joindre au Matmidim quand même, parce que ça le mettait en marge de ne pas aller au Matmidim de sa classe. Vous voyez, il avait tout un miftsa de sa classe, etc. Il lui dit, et tu prends le livre de Mishnah et tu les lis, sans les apprendre par cœur, juste tu les lis, tu peux faire ça? Le jeune, il dit oui. Et dit, puis en plus de ça, tu sais, même si tu ne sais pas apprendre par cœur les Mishnayot, tu pourras faire plein de choses, tu peux devenir rébé. Il dit, tu peux devenir conférencier, il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur les Mishnayot pour faire ça. Bon, en fait, il essaye de lui ouvrir un peu les perspectives, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait ici, le Rav? C'est d'une très très grande chorma. Ça a l'air tout simple, mais c'est une très grande chorma. Il a changé de référentiel. Ça, c'est un point très important qui peut nous servir beaucoup. On a dit que l'encouragement, c'est Chizuk HaKayam, c'est le renforcement de l'existant, oui. Maintenant, quelqu'un il peut dire, mais il n'y a pas d'existant. Le père de ce garçon, il pourrait dire, mais il n'y a pas d'existant. Il ne retient même pas un mot. Vous avez compris? Lui, il veut qu'il apprenne par cœur. C'est ça son objectif. Où est l'existant? Il n'y a pas d'existant, il ne retient même pas un mot. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On change de référentiel. Qui t'a dit que le référentiel, c'est apprendre par cœur? Va chercher le kayam et fauché au nimsa, là où il se trouve. Vous voyez que là, ça devient beaucoup plus concret. Là où il se trouve. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Il dit, il sait lire les Mishnayot. Ça demande quoi? Qu'est-ce qu'on a dit dans la première session sur ça? Renoncer temporairement à certaines exigences.
C'est une exigence qu'on est d'orège de lui, en théon avec les enfants de sa classe du nommage.
Alors là, justement.
Savoir lire ses mathématiques et savoir prendre par cœur.
C'est vrai. Mais pour le faire avancer, on est obligé d'aller là où il est, le prendre par la main et le faire monter.
C'est comme si on voulait faire quelque chose qui est complètement élémentaire, comme je sais pas depuis le gars.
Alors, bien sûr qu'il ne faut pas faire passer ça de cette façon-là. Mais là, il lui a dit, il lui a pas dit ça de cette façon. Il a été chercher, ok, dans quelle mesure il peut quand même se joindre et ne pas être marginalisé? Il peut les lire. C'est gam tov, les gros Mishnayot. Il peut les lire. Alors, le garçon, bien sûr, lui dit, Oui, mais eux, ils ont un prince quand ils récitent par cœur. Alors le rabbi lui a dit, t'inquiète pas, je te débrouillerai un prince. Tu ne seras pas privé. D'accord ? Il lui a arrangé ça comme ça. Le garçon a dit, d'accord, c'est une très grande chorma d'avoir fait ça. Changer de référentiel. Rappelez-vous de ce principe-là, vous pouvez le réappliquer dans beaucoup de contextes différents. Des fois, on veut quelque chose de l'enfant. Et on se dit, on nous a dit d'encourager l'existant. Mais il n'y a pas d'existant. Alors va chercher l'existant. Va, ouvre les yeux. C'est pour ça qu'il faut Ein Tova. Ouvre les yeux et va chercher où il est l'existant. Peut-être c'est dans un autre référentiel. Peut-être qu'il va falloir cette souplesse de renoncer temporairement à certaines exigences. Mais c'est possible de le faire. Et en faisant comme ça, tu dis oui, mais enfin je m'éloigne du but. Je vais aller l'encourager dans le domaine qui m'intéresse beaucoup moins. Moi je veux là, là, ici, je veux. D'accord. Alors comprends une chose. Tu vas arriver là, il va falloir faire un... reculer pour mieux sauter. D'accord. Il va falloir aller en arrière là où il est, l'encourager, que ce garçon il commence à se sentir bien avec lui-même, il commence à avoir développé un petit peu de bitachon atzmi, un petit peu de confiance en lui, et petit à petit, tu élargis la zone de capacité. Vous avez compris le principe ? Bien sûr, ça peut se décliner dans mille et un exemples, mais ça c'est un exemple concret en tout cas pour le voir clairement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire qui est authentique et véridique ? Il s'est passé que pendant plusieurs semaines, le garçon a coopéré, et il a été au Matmidim, et il a lu les Mishnayot. Maintenant, après quelques semaines, ce garçon arrive dans le bureau du Rav Yaakovson. Il pousse la porte, il n'a pas été invité, pas été annoncé, il pousse la porte, en larmes, en pleurs, tout rouge, et il bégayait très fortement. Le Rav, il a dit, la karchizman rav l'ergir auto, ça m'a pris énormément de temps de le calmer, jusqu'à ce que je comprenne qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Alors, il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Au bout d'un moment, il a réussi à sortir quelques mots. Et le garçon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a avoué qu'il s'est pris aujourd'hui à dire par cœur plusieurs Mishnayot. Halak. Alors le Rav Yaakovson, il dit, ben, c'est bien. Et le petit, il ne savait même pas pourquoi, mais il était en état de choc émotionnel, et il pleurait, et il bégayait, et il était tout rouge. Alors le Rav, il nous explique. Il dit, ici, je vais vous expliquer le phénomène. Il dit, c'est la symptomatique typique de l'appréhension de réussite. Dans le creuset dans lequel il s'est trouvé cet enfant-là, il a souffert pendant des mois et des mois de critiques virulentes, oui, jusqu'à ce que le parent il se décourage enfin de lui et qu'il lui fiche la paix, entre guillemets. Maintenant, ce qui est terrible, comme je vous ai expliqué avant, l'appréhension de réussite. Quand les réussites ne sont jamais reconnues, jamais encouragées, jamais félicitées, mais que toujours le regard il est porté sur ce qu'il n'y a pas, ou ce qui manque, ou ce qui reste à faire, alors c'est ça qui l'intériorise, l'enfant. C'est que s'il réussit, tout ça, ça va revenir. L'engrenage, il va revenir. Et il n'est pas intéressé à rentrer là-bas. Il était en état de choc. Ce n'est pas qu'il n'est pas content, que consciemment, il n'est pas content avec ça. C'est que émotionnellement, ça lui a créé un état de choc. Maintenant, il veut pas revenir dans un tel système, d'accord ? Et c'est pour ça que le rabbi dit, dans un système comme ça, mieux vaut ne pas réussir, quitte à se sentir déprécié, parce qu'au moins, il aura la paix. Mais une question, elle se pose quand même. Au-delà de l'association désagréable, l'enfant, il devrait être content finalement de réussir, parce que ça fait des mois et des mois qu'on l'embête pour ça. Finalement, il y arrive. Alors quoi? Il devrait être content de ça, oui? Alors le Rav, il dit, ah mais non, parce que dans un système de focalisation négative, il n'y a pas de réussite. Parce que quand tu réussis, on te demandera autre chose. C'est comme un mirage qui s'éloigne, il n'y a jamais de réalisation. Il n'y a jamais de... tu touches jamais à la satisfaction. Alors il dit, cette approche-là, donc la carence d'encouragement et l'abondance d'exigence et de critique, c'est le paralysant de progression. D'accord ? Là, vous le voyez dans un exemple qui est véridique. Un autre exemple qu'il nous donne, un étudiant à Yeshiva Ktana, qui était chez eux, très intelligent, très vif, très perspicace, mais passif et qui n'a pas envie de commencer rien du tout. Alors, le Rav, une fois, il prend cet adolescent et il lui dit, viens, viens, on fait une petite page de Gemara, comme au bon vieux temps, viens, viens, on fait une petite page. Il essaye de le... ouais. Il lui dit, non, non, j'ai pas la force. Alors il dit, mais pourquoi une petite page? Il lui dit, tu sais combien il y a de pages dans la Gemara? Le jeune. Il dit, il y a 2000 pages. Je n'ai pas la force de commencer, parce que quand j'étudierai la première page, je serai sous pression de la prochaine page. Et quand j'aurai fait la prochaine page, je serai sous pression de la prochaine page. Rien que de penser, j'ai même pas envie de commencer. C'est quoi ça, mesdames? C'est le tout ou rien. Encore une fois, c'est les résultats de cette erreur-là au niveau éducatif. Il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas de gratification sur ce qui a été fait, mais il y a des exigences perpétuelles et renouvelées sur ce qui manque à faire. Il n'a même pas envie de commencer, le tout ou rien. D'accord ? Il dit pourtant ce garçon, un garçon curieux de tout, vif, tellement curieux de tout que quand il lisait tout ce qui lui tombait sous les mains. Il y a un médicament, il prend la notice, il te lit tout du début jusqu'à la fin. Un garçon très curieux, curieux, vif, intéressé, surtout, mais pas de la gmara. Alors, il dit, donc c'est pour ça que c'est un point très délicat. Si on veut, Bezrat Hashem, que les enfants ils exploitent leur potentiel, qu'ils goûtent à la satisfaction, qu'ils aient envie de progresser et d'avancer, il faut faire attention à valoriser ce qui a été fait. Et sur les exigences futures, on peut aller, mais ça veut dire en valorisant ce qui a été fait. Maintenant, le Rav, il va passer à un niveau supérieur. Outre le fait de voir ce qui est bien, qui est déjà un premier travail, il va nous parler de raffiner encore l'encouragement dans ce qu'il appelle Parshanut Mechudeshet. Parshanut Mechudeshet, c'est réinterprétation positivée. On peut appeler ça comme ça. Nous, on a dit au début, première étape, vois le bien. Va voir le bien, va chercher où il est le bien, d'accord ? Maintenant, là, il va plus loin encore, pour les grandes expertes que vous êtes, et il va parler de Parshanut Mechudeshet, réinterpréter positivement les choses. Vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas tout réinterpréter positivement. C'est vrai, ça demande, c'est de l'art, ça demande beaucoup d'exercice, mais le bien, il est situé partout. Le bien, il est contenu en tout. Donc, ça veut dire qu'on peut le trouver partout. C'est une béchira. Il dit, on peut positiver même ce qui apparaît négatif. Alors là, il donne des petits exemples. Il dit, menteur ou détenteur d'une imagination florissante. Coléreux ou détenteur d'un sens de la justice exacerbé. Lent ou pondéré. Vous allez me dire, oh, quand même. Ça demande quoi? La créativité. La créativité. Ouais. Mais vulgade ou yetzirati? Créatif, ouais. Vous savez que ça a l'air d'être une boutade. Mais ils ont remonté des quantités de jeunes comme ça. Parce que quand tu vois un point négatif, si tu l'as catalogué, quand tu l'as catalogué dans ça, c'est dommage. Il y avait là-bas un koar. Il n'a pas été bien canalisé. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux fermer ce koar comme un jet d'eau? Non, tu dois lui trouver l'expression positive. Il a eu un garçon, par exemple, qui est arrivé le premier jour là-bas à la yeshiva. Comment tu t'appelles? Il lui dit, Shimon, mais ne me crois pas parce que je suis un menteur professionnel. Alors il lui dit, ah bon, t'es un menteur professionnel? Alors il lui dit, au bout de quelques échanges de paroles, il lui dit, tu sais, entre nous, tu es l'homme le plus droit que j'ai jamais vu. Pourquoi? Il dit, parce que si vraiment t'étais un menteur professionnel, tu me l'aurais dit? Mazézé, Aïn Tova. C'est la capacité d'aller décrocher le bien, là où il est, même derrière les fagots, d'aller le décrocher. Il lui dit, t'es un des hommes les plus honnêtes. Parce qu'un menteur, il aurait entretenu la supercherie. Il ne m'aurait pas dit qu'il est menteur. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avec ce garçon? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'effectivement, il avait une tendance à fabuler. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Menteur ou détenteur d'une imagination florissante? On a dit. Ça ou ça? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce garçon? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a de l'imagination. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il va écrire! Il a dit, je ne peux pas dire son nom, mais c'est un auteur connu aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oula, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Mais ça veut dire quoi? C'est Yacholiot. Il a dit, c'est un auteur très connu. Est-ce que vous comprenez ici qu'en réalité, ce talent et cette faculté d'aller décrocher le bien, c'est pas seulement d'aller voir le bien où il est. C'est que même ce qui a l'air négatif, tu dois comprendre que toute la création, le fond, il est bon. Parce que c'est la création d'Akadosh Baruch Hu qui est l'être suprême de bien. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui n'a pas une parcelle de bien. Donc quand tu vois quelque chose qui a l'air négatif, va décrocher le côté la facette positive. Vous avez une pièce, elle a deux faces. Et ne le catalogue pas dans le côté négatif. Chaval, c'est un koar. Dites-vous bien que c'est un koar, c'est une force. Comme du magma, il n'a pas encore de direction. Où on va le mettre? Là ou là? Vers où on va l'orienter? Par là ou par là? Regardez ce qu'il dit pour la colère. C'est quelque chose d'inimaginable. Il faut oser dire des choses pareilles. C'est incroyable. Il dit comme ça. On a dit coléreux ou détenteur d'un sens de la justice exacerbée. Ça vous semblait une boutade, ouais? C'est Mevoussas dans la Gemara. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il y a marqué dans la Gemara. Haïta l'mit racham dekam mirtach, oraïta hi dekam meratrele. Je ne connais pas l'araméen, je fais comme si. La traduction, il dit Rashi. Rashi, il commente sur ça. Mishum Shatalmit Racham, je traduis après bien sûr. משקיע את כל חייו, כל מעייניו, זה למצוא את האמת המדויקת ומפתח את חוש הצדק לרמות כאלה שהרגישות שלו נהיית נוראה. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, la Gemara elle dit comme ça. Tu vois un Talmid Chacham qui boue, qui se met en colère, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de se mettre en colère, bien évidemment, c'est un kishalon, c'est un échec. Alors, si tu vois une chose comme ça, juge-le favorablement, parce que c'est la Torah qui est en lui qui le fait bouillir. Tu dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? La Torah, elle ne nous fait pas bouillir, elle doit nous, au contraire, pourquoi nous faire bouillir? Et Rashi commente là-dessus, il dit, parce que le Talmid Chacham, toute son occupation, au jour le jour, c'est d'aller décrocher dans le pile-poule, dans l'étude acharnée, décrocher où il est le émet. Moi je vois, hein, c'est même, ça fait peur, même le bachour qui te vient, qui te dit ah, je ne suis pas chavrutam. Hein. Ils sont très échomrim, ils sont rad échomrim. Ils apprennent à aiguiser leur sens de la perspicacité, du discernement entre le vrai et du faux. Et ils passent leur journée, ils étudient en chavruta, ils décortiquent dans le pile-poule. Donc en fait, leur activité, elle est tellement. Elle aiguise tellement la recherche du Emet à Medouyak, pas juste la recherche de la vérité en règle générale, la recherche du point de vérité précis et infinitésimal. Ils sont tellement au skin baisé, tellement ils sont dedans, qu'ils développent une regishut, une sensibilité à la vérité et à la justice qui est Nora'aï, dit Rachid, qui est incroyable. Il dit donc, si tu vois un Talmid Chacham qui se met en colère, il dit pas tous ceux qui se mettent en colère, ils sont Talmid Chacham. Pas tout mélanger. Ouais. Il dit, mais si tu vois un Talmid Chacham qui se met en colère, c'est la Torah qui est en lui qui le fait bouillir. C'est cette recherche du Emet, cette recherche de la justice qui le fait bouillir. Alors ça veut dire quoi? On peut donc, c'est bien de se mettre en colère? Pas du tout. Se mettre en colère, c'est un kishalon, c'est un échec, et c'est évident. Mais Esfa va comprendre que même là-bas, il y a un Shoresh Chiyuvi. Même là-bas, il y a une racine positive, même sur toi. Comme ça, il a osé nous dire. Il a dit pas que pour le Talmid Chacham, même toi, tu es nerveuse. Tu te dis, ah, je suis nerveuse. Yesh la chouch tzedek mefoutach. Tu as un sens exacerbé de la justice. Ça vous arrive pour celles qui sont un petit peu comme ça, comme moi, par exemple. Elle lit un livre, il y a une injustice. Ça l'énerve. Mais c'est qu'un livre. Ça parle du pôle Nord en Alaska, du truc qu'on a à faire. Non, ça t'énerve. Yesh la chouch mefoutach. Yesh la chouch tzedek. Tu as un sens de la justice qui est développé. Alors tu dois apprendre à ne pas te faire contrôler par ça. Tu dois apprendre à canaliser. Avala shoresh, magnifique. La racine, elle est magnifique. Parce qu'il y a des gens placides et apathiques. La vache, par exemple, vous savez, elle est dans... Elle regarde les trains qui passent. C'est bien aussi. Ça a son bon côté. Dambared, on appelle ça dans les cultures. Ça a son bon côté. Mais ça veut dire, si toi, tu n'as pas ce côté-là, et tu as le côté, le sang chaud de la Suède du Nord, alors comprends que même dans ça, il y a un shoresh chiyuvi. Même dans ça, il y a une racine positive.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, d'autres enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.